We want to have protection. The Middle East, we're going to be sending a relatively small number of troops, mostly protective, and some very talented people are going to the Middle East right now. It'll be about 1,500 people.
Alors, c'est le président Trump qui a annoncé il y a quelques heures qu'il envoyait 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.
Oui, nouvelle de toute dernière heure, des soldats qui sont envoyés pour des vols de plutôt pour appuyer des vols de reconnaissance par des avions américains dans la région. L'administration Trump qui dit vouloir se servir des troupes en question, non pas pour attaquer l'Iran, mais pour plutôt dissuader l'Iran d'attaquer les intérêts américains dans la région. Il y a des signes quand même contradictoires, Paul, parce que d'un côté, on a un président en place présentement qui a activement fait campagne, on le sait, pendant toute la campagne électorale de 2016 sur un moins grand interventionnisme américain dans le monde, surtout au Moyen-Orient, mais qui, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, s'est entouré de conseillers, particulièrement son conseiller actuel à la Sécurité nationale, qui sont, disons, rapides sur la gâchette. Donc, les tensions qui montent entre les deux pays, un dossier à suivre.
À surveiller parce que ça évolue là, au cours des dernières semaines notamment. Après l'Alabama, c'est le Missouri qui adopte à son tour une loi anti-avortement.
Je t'en avais parlé il y a quelques jours lorsque les deux chambres de l'Assemblée législative du Missouri avaient voté à plus des deux tiers dans les deux chambres pour cette nouvelle mesure anti-avortement. Eh bien, elle est maintenant loi suite à la signature du gouverneur républicain. Elle ressemble à la loi en Alabama, va un petit peu moins loin, mais quand même loin, voire très loin. Parce que, comme en Alabama, on parle d'interdire l'avortement, dans ce cas-ci, après 8 semaines, en Alabama, il n'y avait pas de restriction qui était spécifiée au niveau du temps. Et comme en Alabama, aucune nuance pour ce qui est, et aucune exception pour ce qui est du viol et de l'inceste. Donc, vous tombez enceinte, peu importe la façon dont vous êtes tombée enceinte, après 8 semaines, ça devient illégal de vous faire avorter. Et si quelqu'un vous fait avorter, cette personne-là est passible d'une longue peine de prison. Voici où ça devient quand même intéressant politiquement, Paul. Depuis des années, le mouvement pro-vie aux États-Unis étire l'élastique pour voir à quel point, dans le temps, on peut aller là, pour restreindre le droit à l'avortement. En Floride, c'est après 24 semaines qu'on interdit. En Caroline du Nord, c'est après 20 semaines. Et là, tu as le Missouri qui l'interdit après 8. Donc, la question, c'est de savoir à quel point les tribunaux vont autoriser, sous la loi actuelle qui est évidemment en place, la loi fédérale, depuis la décision Roe contre Wade, à quel point on va permettre des restrictions de la sorte au niveau du temps. Et lorsque tu regardes l'opinion publique, ça aussi, c'est fascinant parce que c'est foncièrement une question de temps. C'est-à-dire que tu as une majorité assez nette, et ça, c'est très stable depuis plusieurs années, d'Américains, 60% qui croient que l'avortement devrait être légal pendant le premier trimestre, mais le pourcentage chute à moins de 30% à partir du deuxième trimestre et à moins de 15% à partir du troisième. Et fait extrêmement important à noter, ce n'est pas une question de sexe. Autrement dit, les hommes et les femmes ont des opinions très semblables sur le sujet. C'est beaucoup plus une question de quand est-ce qu'on se fait avorter.
Un membre de l'administration Trump, on va terminer sur une note légère, s'est vu embêté par un acronyme cette semaine.
Royalement embêté. Je me suis retenu jusqu'à aujourd'hui, Paul, pour ne pas t'en parler. Et maintenant, on fait jouer l'extrait d'une comparution devant un comité de la Chambre du secrétaire au logement de Donald Trump, Ben Carson, qui se fait interroger par une représentante de la Californie, qui lui pose une question sur un type de propriété qu'on désigne par l'acronyme REO. On écoute.
As you look it up, I'd also like you to get back to me, if you don't mind, to explain the disparity in REO rates. Do you know what an REO is?
An Oreo?
No, not an Oreo. R-E-O.
Alors, elle lui dit, est-ce que vous savez ce que R-E-O veut dire? Et lui, il répond, un Oreo.
Un Oreo, en fait,
il pensait à un biscuit, lui.
Au biscuit. Et donc, pour ceux qui l'ignorent, un R-E-O, ça fait référence à Real Estate Owned. Et pour ceux qui se demandent, c'est une propriété qui est possédée par une entité comme une banque ou une agence gouvernementale parce qu'on n'a pas été en mesure de la vendre à une vente aux enchères. Comme quoi, Paul, quand on nous écoute, on peut apprendre, pas juste rire.